Nous avons étudié, chers frères et sœurs, les sept églises de l'Apocalypse, de manière succincte, et pas comme un grand théologien qui pèse le pour et le contre de tout, assez rapidement, de manière concrète, pour que ça soit perceptible à toutes les oreilles et que ça ne soit pas réservé à des spécialistes. J'avais envisagé directement, après coup, de commencer les chapitres 4 et 5, donc aujourd'hui, et lundi, qui montrent la gloire du ciel. Mais j'ai bien réfléchi, je propose un petit répit pour le vendredi 7, c'est aujourd'hui, pour le lundi 10 et le mercredi 12. Les études des paraboles dans Matthieu, parfois dans Luc, peuvent nous faire comprendre beaucoup mieux ce que Dieu a dit, que Christ a dit à Jean dans l'Apocalypse concernant les sept églises. Les paraboles donnent un sens prophétique aux années qui ont suivi pour la chrétienté. Et je voudrais aborder ce sujet, après l'avoir traité par les sept églises d'Apocalypse, l'aborder par la voie des paraboles. Donc, nous allons commencer assez rapidement. Nous allons aller dans Matthieu, chapitre 13. C'est seulement quand nous aurons fait cette étude des paraboles dans les grandes lignes que vous pourrez faire des rapprochements avec les textes de l'Apocalypse pour cette église. On pourrait prendre aussi d'autres textes. Évidemment, on n'arrêterait pas. Et c'est seulement après tout ça qu'on prendra les chapitres 6 à 19, cette période des grandes tribulations qui ont effrayé tellement de gens, qui leur posent tellement de questions, dans lesquelles beaucoup de gens ont fait des livres, des films, etc., qui ont créé la peur ou qui ont permis au satanisme de se répandre. Les chapitres 6 à 19 de l'Apocalypse ne sont pas des textes qui doivent être manipulés par des incroyants et par des satanistes. Ils ont un sens bien précis en vue d'amener des personnes à la repentance. C'est tout. Donc, Matthieu, chapitre 13, nous allons commencer au verset 3. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, « Voici ma mère et mes frères », en étendant la main sur tes disciples. Seigneur Jésus, tu as dit ceci, « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous croyons que nous pouvons être frères et sœurs de toi, Seigneur Jésus, et frères et sœurs entre nous, dans la mesure où nous aimons la parole de notre Papa et la volonté de notre Papa, et que notre cœur est ardent pour obéir. Oui, Seigneur, conduis ton peuple dans la prière, dans la lecture de la parole. Ton peuple est celui qui veut faire ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Chapitre 13, verset 3. Jésus leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Elle fut brûlée et sécha faute de racines. » J'ai bien répété, parce que c'est important. « Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. » Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain en donna 100, un autre en donna 60, un autre en donna 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Rappelez-vous qu'à chaque message qui est donné ou cette église, chaque église doit écouter ce que l'Esprit-Saint lui dit. Et que l'église entende ce que l'Esprit-Saint lui dit. Bien sûr, Jésus n'étant plus physiquement présent, c'est l'Esprit Saint qui doit conduire l'Église. C'est l'Esprit Saint qui doit agir dans le cœur et les chrétiens, dans l'Esprit, les chrétiens doivent accueillir l'autorité du Saint-Esprit. Ici, dans ce cas-ci, Jésus est présent physiquement. Donc, il ne veut pas dire que l'Esprit vous dit ceci, vous dit cela. Et simplement, il dit, c'est moi qui vous le dis. Écoutez ce que je vous dis. Entendez ce que je dis de ma bouche. Donc, c'est clair, c'est un parallélisme très important. Après chaque parabole, il y a cette parole que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le problème de l'audition et de la surdité est donc phénoménal dans l'humanité pour que Dieu insiste sur ce point-là. Pourquoi y a-t-il surdité et manque d'audition? Parce que le peuple juif s'est moqué pendant des siècles des prophètes, de ceux que Dieu envoyait. Et alors, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, Dieu dit à Ésaïe, tu vas aller leur dire ceci. Le cœur de ce peuple, verset 14, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc Dieu en a terminé avec ce peuple qui s'oppose continuellement à la révélation à travers les prophètes et il clôture, il bouche les oreilles et les yeux. Si bien que c'est ainsi qu'ils n'ont pas connu Jésus et qu'ils l'ont crucifié. Mais c'est pour Ésaïe, dans le chapitre 6, dit « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et nous voyons que dans Romains, chapitre 11, versets 25-35, il est dit « Jusqu'au moment où l'Évangile est proclamé à la totalité des païens, de toutes les nations. » Alors, le peuple de Dieu, le peuple juif, est de nouveau greffé. Car les paroles de Dieu sont irrévocables, les promesses sont irrévocables. Donc, Dieu n'a pas retiré sa fidélité et sa miséricorde envers Israël, il a fait tomber une sanction pour un certain temps. Ce qui a permis, dans leur égarement, qui a permis à Dieu d'exécuter le sacrifice de l'agneau, le sacrifice de Christ à la croix, pour le salut du monde. Lisez donc Romains chapitre 11 et vous comprendrez mieux. Donc, la surdité spirituelle et l'aveuglement spirituel sont sur les auditeurs qui sont autour de Jésus. Peut-être pas tous. Il y en a évidemment qui ne sont pas sourds, qui ne sont pas aveugles. Et qui restent avec Jésus, qui après coup lui disent « Mais écoute-nous, écoute Seigneur, on n'a rien compris, explique-nous. » Donc il y en a qui font l'effort de s'adresser à Jésus pour comprendre. Et au verset 18... Matthieu 13, 18, voici ce que Jésus dit. Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Écoutez. Donc, c'est clair, il explique à qui veut l'entendre. Si quelqu'un est désireux de connaître la volonté de Dieu et sa parole, Dieu va lui donner la lumière nécessaire pour la comprendre et les oreilles nécessaires. Mais s'il fait le touriste biblique, il est curieux et il met la parole de Jésus et des prophètes sur le même plan que Bouddha et Mohammed de l'islam et de tous les autres, il n'aura pas de lumière spéciale. Il lira tout, il choisira, il s'égarera, mais Dieu ne fera pas de cadeau. Alors regardons au verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans le cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc les oiseaux sur le bord du chemin, ce sont des ouvriers du malin, ce sont des démons qui viennent voler, grappiller dans le cœur tout ce que Jésus a enseigné, tout ce que Dieu a déjà mis par les prophètes, etc. Faites attention, dans notre vie, il peut en être de la même façon. Pour quelqu'un qui a commencé à entendre la parole de Dieu, l'évangile, et puis qui ne s'est pas donné à Christ, qui n'a pas choisi de donner sa vie à Christ, il reste en suspens. Il fait le touriste biblique et il fait... Il se croit capable de retenir ce qu'il veut, d'entendre ce qu'il veut, de choisir ce qu'il veut, et finalement le malin va venir voler tout ce qui était bon et qui était semé dans son cœur. Et il lui restera un gros zéro. Donc je vous mets en garde, on ne peut pas entendre Dieu, sa parole, en disant « je fais ce que je veux ». Seigneur, je te crains, je te respecte, j'honore ta parole et je l'accepte. J'accepte ta parole, je la fais mienne et je me donne à toi. Et Seigneur, je veux que tu m'enseignes, je veux t'appartenir, je me donne à toi. Ça, c'est la vraie attitude du vrai auditeur qui s'engage. Mais s'il ne s'engage pas, il s'agit de quelqu'un dont le malin vient et enlève ce qui est semé dans le cœur. Verset 19. Dans Hébreu, il y a un texte qui nous dit souvent, beaucoup de gens l'ont interprété à tort et à travers, pour enseigner une chose, c'est que le salut peut être retiré par Dieu. Il peut être donné et retiré. Et c'est un gros problème quand des gens interprètent ce texte de cette manière. Dieu ne retire pas le salut à quelqu'un à qui il l'a donné. Comprenez bien. Dieu ne peut pas retirer et ne veut pas retirer. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Et je vais expliquer ce texte dans Hébreu parce que il a été la source de beaucoup de malentendus. Il y a des théologiens, des églises qui ont enseigné, on appelle cela en théologie Arminius. Arminius est un évêque et un théologien. L'arminianisme, c'est le salut, on n'est pas certain du salut, on peut le perdre. Je pense, comme beaucoup d'amis baptistes, que le salut n'est jamais retiré par Dieu quand il a été donné. Mais quand est-ce qu'il est donné réellement ? C'est ça le problème. Hébreux chapitre 6, verset 4. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, donc la puissance du Saint-Esprit, qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Qu'est-ce que c'est mis là? Il est impossible. Bon. Ceux qui ont goûté le don céleste, qui ont goûté la bonne parole, le mot en grec veut dire simplement ceci. Comme dans l'œnologie, le test vin, c'est pas quelqu'un qui boit le vin. Le test vin fait le tour de toutes les caves, il goûte les vins, il les regarde, il les goûte, il les recrache, il lave sa bouche, il prend un autre vin, il le goûte, il le crache et il rince sa bouche. Il n'a pas bu. Et ce verbe-là, c'est celui-là qui est utilisé ici dans Hébreu. C'est donc quelque chose de très clair. Celui qui a entendu la parole de Dieu et qui a apprécié sa valeur, qui a apprécié sa grandeur, sa vérité, mais qui ne s'est pas encore donné, qui n'a pas décidé de se donner, qui n'a pas décidé de lâcher prise. Celui-là, eh bien, il tombe. Et il refuse la repentance, il refuse le Fils de Dieu, et il crucifie encore, pour leur part, le Fils de Dieu. Encore une fois, il le rejette, comme ceux qui ont rejeté Jésus à la croix. Il est clair que cela n'est pas un texte pour dire qu'on perd son salut. C'est simplement que quand on s'est approché, qu'on a réellement compris la parole de Dieu et entendu, il ne faut pas s'en moquer. Il ne faut pas jouer au test vain. On pourrait prendre le reste du texte, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Si plusieurs personnes d'entre vous veulent des explications sur ces textes, ils peuvent bien sûr m'envoyer des emails, me téléphoner, m'écrire. Je peux très bien aussi faire des retraites si vous êtes à plusieurs. Dans Matthieu 13, verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Une occasion de chute. C'est extrêmement important. Cette occasion de chute est tout de même peut-être fréquente. Dans Matthieu 13, 57, Jésus était pour eux une occasion de chute. Donc, dans ce verset 21, il survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. C'est Jésus le motif de la chute. Ils ne veulent pas se donner à Jésus. Ils ne veulent pas être fidèlement attachés à Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait donner sa vie. Parce qu'il faudrait se consacrer, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Et ils ne veulent pas le faire. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alors, donc, de quoi s'agit-il ? Une parole infructueuse à cause des soucis du siècle et des convoitises. Eh bien, dans Luc chapitre 17, voici ce que Jésus dit. Au verset 20, Luc 17, verset 26. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Quand je parle de mariage, c'est aussi remariage, à répétition, avec répudiation des femmes. Se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Évidemment, il y a d'autres textes. Je peux faire le tour des évangiles, je trouverai encore beaucoup d'autres textes pour illustrer ce problème. L'occasion de chute, c'est Jésus. À un moment donné, on le lâche, on ne le suit plus. On a emboîté le pas un certain temps, mais on laisse tomber. Pourquoi ? Parce qu'il y a des persécutions, des tribulations, et aussi, au verset 22, parce qu'il y a tout simplement les choses courantes de la vie, l'affairisme, l'argent, les biens, la jouissance des biens, la jouissance du temps qui nous est donné à vivre sur terre. Donc la séduction de toutes les fausses valeurs. Verset 23, Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain, un donne 100, un autre 60, un autre 30. Qu'est-ce qu'il en est ? C'est clairement quelqu'un qui est favorable à la parole de Dieu et qui veut l'entendre et la vivre jusqu'au bout. Prenons Luc. Chapitre 6, verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien profondément et a posé le fondement, la fondation sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique la parole de Dieu est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre Sans fondation, le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison était grande. Voilà, mes chers amis, il est évident que nous ne pouvons pas mettre de côté les avertissements de Jésus. La fondation, c'est l'amour de la parole, c'est un amour sérieux, très sérieux de la parole, qui est profond, qui est dans lequel on s'investit. Dans Luc chapitre 9, verset 23, c'est ce verset qui a provoqué ma conversion. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra, mais celui qui la perdra, à cause de moi, la sauvera. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Donc, nous avons ici, dans ce texte de Matthieu, au chapitre 13, un avertissement sublime, que Jésus est une source de chute. Eh bien, regardez bien, quand vous vous rappelez ce que j'ai dit pour les églises d'Apocalypse. L'église d'Éphèse a l'air magnifique, et pourtant Jésus n'est plus là. On ne le vit plus, on n'a plus de communion avec lui. Il n'est pas central dans l'église. Et le système religieux, spirituel, tourne bien, mais sans Jésus, sans cette adhésion à Jésus. Donc Jésus était une occasion de chute. Quand vous regardez dans l'église de Smyrne, la deuxième, il y en a qui donnent leur vie pour Christ, pour Jésus, Antipas, etc., qui vont jusqu'au martyr. Puis il y en a d'autres qui suivent la voie de Balaam, qui tombent dans l'impudicité et qui suivent l'influence de Satan, des fantasmes sexuels, de la visitation des démons impurs, et qui se laissent entraîner à l'impudicité. Les Nicolaïtes de même, dans l'église de Smyrne. Et il faut faire attention. Il y a une église où il y a à Thyatire, il y a Jézabel qui annonce une fausse parole. Et les serviteurs la suivent. Donc, toutes les paraboles que nous voyons, la parabole que nous voyons sur la semence, trouve une illustration à travers les sept églises. Et la petite église de Philadelphie est celle qui est la bonne terre, qui garde la parole de Dieu et qui fructifie et qui amène à la fin des temps, avant les tribulations, les Juifs à revenir à Christ, à se convertir. Et ainsi s'accomplit Romains chapitre 11. Ainsi, les paraboles sont une prophétie authentique avec un caractère historique, eschatologique, à la fin des temps, hein, et qui donne sa pleine réalisation dans la conversion des Juifs, pour l'église de Philadelphie, au retour de Jésus, Israël l'accueille. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Psaume 118. Donc, cette parabole est très importante sur la semence. Et puis, il y en a des autres. Il y a une deuxième parabole. Et là, ça devient plus compliqué, les amis. Il leur proposa une autre parabole et il dit, au verset 24, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Donc c'est Christ qui sème la bonne semence. C'est Christ qui sème la bonne semence. Faut bien se dire que Christ n'a pas semé des mauvaises semences. Alors, que se passe-t-il dans cette parabole, verset 24? Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, au verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Celui qui sème la bonne semence, verset 37, c'est le fils de l'homme. Donc nous avons l'explication, bien sûr, du verset 24. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Rappelez-vous ce que Paul avait dit à Milet sur l'île de Crète, quand il avertissait les responsables de l'église d'Éphèse que des loups cruels s'introduiraient, se glisseraient dans l'église pour annoncer les fausses doctrines. Et rappelez-vous les épîtres de Pierre, de Tite, etc., où il y a plein de gens qui annoncent des faux évangiles. Et donc, il y a des gens qui amènent le faux évangile. Et l'image qui leur convient, c'est l'ivraie. Je répète le verset 25. « Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. » L'herbe, c'est donc le blé. Ensuite, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Verset 28, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, on déracine en même temps le blé. » Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Explication. Au verset 36, enfin, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, donc Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc, nous voyons ici que nous avons passé à une deuxième étape. C'est l'étape des actes des apôtres, c'est l'étape du premier siècle dans lequel les fils du royaume répandent l'évangile à travers le monde. C'est plus le Christ directement, c'est le Christ par les apôtres, par les disciples des apôtres. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils annoncent le royaume, ils annoncent la mort et la résurrection de Jésus, le salut par grâce, à cause du sang de Jésus à la croix, et le don du Saint-Esprit, et l'autorité de la parole. Ça, c'est les fils du royaume. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Donc l'ivraie, c'est les faux évangiles. Et vous savez qu'à la fin du IIIe siècle, dans un village au nord de l'Italie, Muratori, les responsables des églises se sont réunis. Il y avait tellement d'évangiles, de fausses bibles et des tas d'écrits qui étaient, j'ai vu cette somme, elle est deux fois plus épaisse que la Bible. Ce livre qui contient les écrits apocryphes, non inspirés par le Saint-Esprit, est deux fois plus gros que notre Bible. Et tout ça sur la période néo-testamentaire, la période de Jésus et de l'Église, du premier siècle. Donc il y a eu une foison de penseurs, une foison d'éditeurs, une foison de scribes, de copieurs qui ont répandu la poisse, je dirais, l'ivraie. Et à la fin du 2e siècle ou 3e siècle, à Muratori, les responsables ont dû fixer ce qui était le vrai livre sacré biblique, le canon biblique. Le canon étant la mesure égyptienne, 99 cm, un roseau. Donc le canon biblique, c'est ce qui est pour les responsables des églises inspirés, qui parlent du salut par grâce en Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour nos péchés. Tout le reste, toutes les fadaises, on les met de côté. Ce sont des épigraphes, c'est à côté de l'écriture, ou pseudo-épigraphes. Et pratiquement, plein de gens étaient des fils de malins, et ils semaient un faux évangile. Alors, verset 39, voici l'explication. Qui a poussé tous ces gens à propager des faux évangiles et à travestir l'annonce du royaume, du vrai message de Jésus? Ben, l'ennemi, Satan. Verset 39, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Alors, évidemment, il est expliqué après que l'ivraie va être mis au feu, etc., que le Fils de l'homme viendra avec ses anges, ils arracheront du royaume tous les scandales de ceux qui commettent l'iniquité. Et les jetteront dans la fournaise ardente, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc c'est le verset 41 et 42. Et pour les autres, pour ceux qui sont fidèles au vrai évangile, qui ont été toujours, qui ont toujours été, selon le verset 38, les vrais fils du royaume, la bonne semence, voici ce qui est dit au verset 43, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et regardez bien, comme pour les églises d'Éphèse et toutes les autres, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous voyons donc bien que là, on traite de la période post-Jésus, c'est-à-dire de la période des actes des apôtres et celle qui suit après. Et de la grande difficulté qu'il y a eu de faire la différence entre les vrais et les faux évangiles. Rappelez-vous ce que Paul a annoncé dans la deuxième aux Corinthiens. Deuxième aux Corinthiens. Chapitre 11, verset 3. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Oh là ! Oh là là ! Pauvre Paul qui avait fondé cette église, qui était en train de voir tous les dérapages possibles et inimaginables. Alors, il dit un peu plus loin, au verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice, donc de l'évangile. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ce que nous voyons là, dans 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15, ça correspond tout à fait à ce qui est dit pour les ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ en Apocalypse 2, versets 2 et 3. Apocalypse, chapitre 2, versets 2 et 3. « Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. » Donc, il y avait des apôtres faux, des menteurs. Et il y a des menteurs à toute époque. Il y a des menteurs à toute époque pour trahir la vérité biblique. Chers amis, il est clair que la parabole de l'ivraie était donc une prophétie pour les temps post-Jésus. Pour le temps de la chrétienté. Il y a bien sûr un autre sens dans cette période de chrétienté où il y a les vrais fidèles à Christ et à sa parole et tous les autres qui travestissent la parole, qui ajoutent, qui retranchent, qui déforment. Il est interdit, le Seigneur ne veut pas qu'on fasse de l'inquisition, qu'on arrache l'ivraie. Dieu est tellement patient et Dieu n'utilise jamais la violence. Il jugera plus tard et le jugement sera très fort, très puissant. Et là, ça va barder, évidemment. Puisqu'il est mis qu'au verset 42, ils les jetteront dans la fournaise, ces anges ardentes, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, il est clair qu'à un moment donné, il y aura un jugement très sévère. Mais en attendant, l'Église n'est pas amenée à faire ce jugement et de faire du triage. Les vrais spirituels doivent supporter la fréquentation des faux spirituels, des faux chrétiens. Et il y aura toujours une difficulté entre les deux. Il y aura toujours une difficulté. Et c'est au prix de grandes souffrances, et pourtant, Jésus n'a jamais dit de maudire. Jésus n'a jamais dit de rejeter, de haïr. Il a dit de bénir. de prier pour ceux qui ne nous ressemblent pas. Et donc, fondamentalement, la vraie attitude de Christ et des vrais chrétiens, c'est la patience, la persévérance, la non-violence, l'intercession. Car il se peut que de ces faux apôtres, de ces faux chrétiens, apparaisse un jour une vraie repentance. Dans Romains chapitre 2, versets 1 à 5, il est clairement dit qu'il ne faut pas juger. Parce que c'est alors que nous serions remplis de mépris pour les capacités de Dieu, capacités de les trésors de bienveillance, de miséricorde qu'il peut exercer encore chez ces chrétiens qui s'égarent. Ces chrétiens qui portent le nom chrétien, ils ne sont pas réellement. Je prends Galates chapitre 4, verset 29. De même qu'alors celui qui était né selon la chair, donc humain, Adam, adamique, persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Il y a donc même de la part de ceux qui sont les fils du malin une action agressive contre les vrais enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'inhérent à la chrétienté. Les vrais chrétiens ont été appelés à supporter avec courage. Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations, mais courage, j'ai vaincu le monde. » Courage, j'ai vaincu le monde. Il est donc donné aux chrétiens de supporter des souffrances importantes, en vrai chrétien, parfois même de la part de gens qui s'appellent frères. Pourquoi ? Parce que l'attitude qu'un vrai chrétien a peut déterminer la repentance et la conversion de gens qui, jusqu'alors, n'avaient pas compris ce que ça voulait dire être chrétien. Et donc, je vous lis dans la première épître de Pierre, verset 2, verset 19, « C'est d'une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sous le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, donc la sainteté. Lui, par les meurtrissures duquel vous êtes guéris, car vous étiez des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Nous voyons donc bien que Pierre dit lui-même que la situation du chrétien authentique n'est pas aisée et qu'il souffre, mais il souffre comme Christ. Et il a... En Christ, il a en Christ un bonheur que le faux chrétien n'a jamais. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, repose sur vous. Voilà, chers amis, je pense que j'ai donné des commentaires qui permettent de comprendre ce qui s'est passé dans l'église de Smyrne, là où Antipas et certains ont donné leur vie, et puis d'autres ont suivi les invitations au péché qui étaient... maléfique, qui n'était pas digne de Christ, ni de l'Évangile. Maintenant, Jésus, dans Matthieu chapitre 13, donne, bien sûr, d'autres exemples, d'autres paraboles. Verset 31, 13-31, il leur proposa une autre parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. » C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il est poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alors, mes amis, il faudrait comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Ce grain de sénavé, c'est un petit buisson qui va pousser et qui va faire 3-4 mètres de haut, enfin une hauteur relativement peu élevée, mais qui va avoir beaucoup de branches, et dans lesquelles, si vous êtes né à la campagne ou si vous fréquentez la campagne, vous allez voir, c'est dans ce genre d'arbustes que aiment se trouver les oiseaux, les moineaux, etc. Parce qu'ils peuvent s'y cacher, ils peuvent y faire leur nid, ils peuvent y passer l'hiver, etc. Et se reproduire. Et pratiquement, c'est l'endroit rêvé pour eux. Parce qu'ils sont en nombre, ils se sentent plus forts et ils ont une certaine sécurité entre eux. Donc, c'est l'image de la chrétienté qui va se développer dans le futur. Quand Jésus annonce cela, l'image de la chrétienté qui va se développer, c'est une chrétienté qui va grandir d'une certaine manière, imaginons jusqu'à Constantin, 3e siècle, et puis tout d'un coup, avec Constantin, il n'a rien trouvé de mieux que de supprimer les cultes païens et d'obliger tout le monde, sans être né de nouveau, sans avoir connu l'Évangile, ni la parole de Dieu, ni la conversion, à devenir chrétien. Chrétien. Comment en faisant? En les baptisant. Grâce à quel subterfuge? Mais parce que, en 365, Cyprien de Carthage avait inventé le prêtre. Quelques dizaines d'années plus tard, Augustin, qui a fait de beaux écrits sur la grâce, etc., a tout de même parlé des sacrements. Et qui donne les sacrements? Les prêtres. Et plein de gens ont le salut par les prêtres, par les sacrements, notamment celui du baptême. Et donc, on a donné le baptême à des millions de gens sans qu'ils soient convertis, sans qu'ils connaissent la parole de Dieu. C'est ça, les oiseaux. Ce sont des oiseaux qui remplissent l'arbre. Et ils investissent l'arbre. Ils viennent habiter dedans. Mais rappelez-vous, les oiseaux ne sont pas des bienfaiteurs. Regardez bien Matthieu 13, 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, et de quoi s'agit-il en fait? Cet homme-là, qui le malin vient enlever, de quoi s'agit-il? Il s'agissait des oiseaux. Chapitre 13, verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Les oiseaux représentent les voleurs. Les voleurs envoyés par Satan pour accaparer le territoire de Dieu, pour investir la chrétienté, investir l'arbre. Et même s'il y a beaucoup d'oiseaux dans l'arbre, ce n'est pas un cadeau. C'est un piège. C'est un immense piège pour la chrétienté. Donc la parabole ici, de Matthieu 13, 31 à 32, est une prophétie. C'est une prophétie, les amis. Maintenant, nous allons passer à une autre parabole qui a un caractère prophétique aussi. Rappelez-vous que dans l'histoire, hein, à propos de l'arbre avec les oiseaux, ce n'est pas fini. C'est encore aujourd'hui. Il y a dans la chrétienté plein de gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas enfants de Dieu, qui investissent le terrain et qui se disent chrétiens et qui semblent être le vrai christianisme, qui semble, pas pour Dieu et pas pour les vrais chrétiens. Au chapitre 13, verset 33, Jésus leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Donc, la pâte levée, n'est-ce pas? Il faudrait que nous approfondissions, évidemment, ce petit verset. Galates, chapitre 5, versets 7 à 8. Galates, chapitre 5, versets 5 à 8. Donc, il y avait dans la chrétienté énormément de gens qui voulaient instaurer le régime du légalisme, de la loi. Tu fais ci, tu fais cela, tu seras sauvé, etc. Tu ne fais pas ça, tu seras condamné. Tu seras damné. Tu vas en enfer. C'est le régime de la loi, le régime de la culpabilité, de la condamnation, et on a perdu le sens de la mort de Jésus à la croix. On a perdu le sens du sacrifice rédempteur de Jésus. On ne sait plus que Jésus nous a accordé le salut à la croix, et que le salut est donné gratuitement si on a foi en Jésus, l'agneau sacrifié, pour nos péchés. Donc le christianisme est détourné. On retourne à la loi, à des règlements, et à la crainte, à l'angoisse, on n'a pas d'assurance du salut, et on ne connaît même pas la valeur du sacrifice de Christ. Ok ? Et ça commence déjà, au milieu du premier siècle du christianisme. Alors, Galates, chapitre 5, verset 6. « En Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par la charité. » Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence ne vient pas de Jésus. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Les gens de la région de Galatie, en Turquie, voulaient retourner à un légalisme chrétien, à tendance juive, mais chrétien. Et on a connu ça, étant enfant. On a connu ça avant les conciles Vatican II. Et il y avait énormément, il faut faire ci, faire ça, des confessions, etc. Et on pouvait perdre le salut. Il fallait trouver le prêtre pour retrouver la grâce. Il y avait des péchés mortels, on perdait le salut. Alors, bien que le prêtre ait enseigné que le baptême avait donné la vie éternelle, on perdait. Il fallait le retrouver au robinet de la grâce, c'était le prêtre. Donc, ce n'était plus un salut. C'était réellement une œuvre humaine. Le salut à la croix en Jésus-Christ n'a pas besoin de prêtre. C'est mis clairement dans l'Épître aux Hébreux qu'il y a le sacerdoce de Christ est intransmissible et que Christ est mort à la croix une fois pour toutes pour tous nos péchés. Donc ici, qu'est-ce qui vous a empêché d'obéir à la vérité au verset 7? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, donc de Christ. Mais un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, du mensonge, un égarement dans le légalisme fait grossir la chrétienté. Effectivement, la chrétienté a grandi grâce à la culpabilité. J'ai un livre dans ma bibliothèque de Jean Delumeau sur le Moyen-Âge, un énorme livre, avec la manipulation qui s'est fait tout en Occident sur la culpabilité. Et grâce à l'enseignement de la culpabilité, et pas du salut à la croix, les abbayes se sont répandues, les messes se sont multipliées, les pèlerinages se sont multipliés, et les vocations d'ermites, les vocations de moines, de nonnes, se sont multipliées pour acquérir le salut, par les œuvres. Et il fallait payer des messes pour être sauvé, même après la mort. Donc vous voyez, le christianisme a pris une ampleur au Moyen-Âge grâce à ce levain, à cette façon de présenter l'évangile qui n'est pas l'évangile. C'était un retour à la loi, à la crainte, à la culpabilité, et il fallait trouver les moyens d'apaiser la culpabilité en faisant des sacrifices, en faisant des aumônes, en faisant des obols. Et bien sûr, on trouve cela aussi dans l'islam. Nous allons prendre un autre texte dans Matthieu, au chapitre 16, verset 6. Matthieu 16, verset 6. Jésus dit : Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Donc, des enseignements, de l'enseignement, des lois. Il y avait 622 lois à l'époque de Jésus. Et au verset 12, chapitre 16, verset 12, ils comprirent que ce n'était pas du levain qu'on met dans le pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, il y a un enseignement qui est faux. C'est celui de la crainte de Dieu, de la loi, des récompenses, des châtiments, et qui développe la crainte, et qui angoisse les gens, et qui développe la religiosité. Et tous les monuments, les pèlerinages, les offrandes, et qui enrichit les religieux, évidemment, qui appauvrit les pauvres. Le levain est un véritable poison dans la chrétienté. C'est tel, comme ça que Jésus l'annonce. Et il ne faut pas ce levain. Prenons la première aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. Première aux Corinthiens, chapitre 5. Première aux Corinthiens, chapitre 5, verset 6. C'est à bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Vous voyez? Paul parle comme Jésus. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Nous n'avons pas besoin de levain. Le pain que nous devons manger, c'est comme celui des Hébreux qui traversent la mer Rouge. Notre pain n'a pas besoin de levain. Nous ne devons pas garder, les Hébreux ne pouvaient pas garder du levain qui venait d'Égypte. Ils ont dû manger du pain azim, des herbes amères et l'agneau. Allah, debout. Pourquoi? En comptant sur Dieu uniquement et sur sa grâce. Et il ne fallait pas garder des enseignements de la vieille vie en Égypte. Eh bien ici, pour Paul, il dit aux chrétiens, faites disparaître le vieux levain, c'est-à-dire le légalisme, la légalité, les règlements, les mérites, les bonnes œuvres, etc. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Donc, une pâte, c'est-à-dire une vraie pâte qui donne un vrai pain pour nourrir tout le monde, c'est-à-dire ceux qui croient que Jésus est mort pour nos péchés et nous avons un salut donné par grâce, gratuitement. Nous n'avons pas besoin de donner d'argent, nous n'avons pas besoin de nous soumettre à des papes et des évêques, nous n'avons pas besoin de faire de croisades ou de pèlerinages pour être sauvés. Simplement avoir la foi en Jésus, de manière personnelle et vivante, grâce au Saint-Esprit. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, donc la fête de Pâques est notre foi, hein, non avec du vieux levain, mais avec un levain de, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc nous avons besoin de pureté dans la vérité et de vérité dans la pureté. Nous avons besoin d'être totalement branchés sur la grâce. C'est ça là que Jésus a dit à Paul. Hein, afin que tu ne t'enorgueillisses pas, je vais te laisser un certain temps dans la souffrance, Satan va t'attaquer, mais pourquoi? Tu ne t'enorgueilliras pas et ma grâce te suffira. C'est dans ta faiblesse que je me glorifierai, ma grâce te suffira. La grâce, Gnade is genug. La grâce est nécessaire et suffisante. Et il n'y a pas eu besoin pour Jésus de plus que la croix et son évangile. Si on a ajouté autre chose, ça s'appelle du levain. C'est la parabole de Matthieu 13, verset 33. Donc, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a appris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. La femme représente la chrétienté et bien sûr le levain, le légalisme, le retour à la loi, le retour aux œuvres, aux bonnes œuvres, etc. Et la pâte lève tellement bien que ça, apparemment, ça marchait bien. Hein. Vous pouvez visiter la France, des tas de pays, il y a des abbayes partout, des cathédrales partout, et ça tourniquait bien. Parce que tout le peuple vivait dans l'angoisse et a offert sang et eau et argent pour tout cela. Sauf que le protestantisme a refusé, Et comme le protestantisme retournait à la parole de Dieu et à la grâce, il fallait l'éradiquer, il fallait massacrer à tout prix. Chaque évêque allait perdre la dîme qu'il prenait sur tout le monde. La papauté aussi. Et c'est comme ça qu'on a massacré les protestants en France et dans d'autres pays. Parce que ceux qui se convertissaient ne donnaient plus la dîme et les évêques n'avaient plus l'argent. Et ils ne voyaient plus les gens venir opérer leur urinage et offrir, contribuer à construire leur cathédrale, etc. Continuons, verset 34, Matthieu 13, 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Création du monde. Mais il les explique aux disciples. Et aujourd'hui, je vous en donne l'explication. Si vous êtes réellement disciple, vous méritez une explication et vous rendez compte que les paraboles ne sont pas simplement des histoires pour les enfants, des histoires imagées. Elles ont un contenu prophétique, historique, concret. Et elles se sont réalisées. Et se réalisent encore. Alors, continuons plus loin. Au verset 44, Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. C'est Jésus-Christ, hein, le trésor caché. Parce que dans ce monde, Jésus de Nazareth n'intéressait personne. Et quand il est mort au Golgotha, au lieu du crâne à Jérusalem, c'était le lieu le plus maudit, le plus infâme qui ait eu lieu en Israël à cette époque-là. On avait crucifié des milliers de gens. Là, ça y puait la mort. Et c'était loin de la ville. Donc, le trésor caché, il est bien caché. Il était vraiment banni, rejeté. Ce trésor caché, c'est Christ. Pourtant, Christ est ressuscité et il l'a dit dans Matthieu 28, 18 à 20, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. » Donc, bien que caché, Christ est là. Où est-il? Chers amis, où est-il? S'il est là. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Donc, il a trouvé le trésor dans le champ, il le recache, et puis il ne dit rien, et il ramasse tous ses biens, il fait des affaires, et puis avec le magot, il achète le terrain, et il peut dire, le trésor qui est dans le champ là m'appartient tout comme le champ. Hein, vous savez que le fond emporte le comble, comme on dit. Et donc, il est clair que l'homme qui a trouvé Jésus-Christ et qui rassemble toutes ses énergies et tous ses biens, sa maison, sa famille, ses enfants, qui rassemble tout le monde autour de lui pour qu'il profite du trésor qui est dans sa vie, c'est réellement un homme qui a un trésor caché qu'il veut mettre à jour et partager avec les siens. Donc, le trésor caché, Christ, et l'homme qui sait investir en Christ, l'homme qui sait là où il place sa joie, sa vraie joie, c'est en Christ. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Il a mis la priorité à choisir Christ. Et rappelez-vous ce que je viens de vous lire avant, dans Luc, celui qui me donne sa vie, il la sauvera, celui qui veut la conserver, il la perdra. Hein? Viens, suis-moi, porte ta croix. Donc, nous savons très bien que cette parabole est nécessaire parce qu'elle nous engage tout, quiconque, depuis 2000 ans jusqu'au retour de Jésus, dans un processus responsable où je me donne résolument, de façon déterminée, sans marche arrière, sans regret, à Jésus-Christ. Et je ne peux pas avoir tout en même temps sur la terre. Si je veux tout avoir, je n'aurai pas Christ. Si je veux avoir Christ, il faut que j'abandonne tout le reste. Continuons. Matthieu 13, 45. Mais j'ajoute qu'il y a de la joie à aimer Christ. Il y a une profonde joie. Quand moi, j'ai trouvé cette joie à l'âge de 17 ans, elle ne m'a jamais quitté. Et une énergie incroyable. Il m'a fallu faire de grands sacrifices tout le long de ma vie. J'ai fait aussi des choses que je ne devrais pas faire. Mais toujours, je suis retourné vers Jésus avec joie. Parce que c'était mon trésor caché. Mon trésor dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Bon, les amis, le marchand, j'ai pensé à Zacharie, chapitre 14, verset 21. Zacharie 14, verset 21. Je commence au verset 20, Zacharie 14, 20. C'est à la fin des temps, évidemment. C'est vraiment à la fin des temps quand Christ vient sur terre. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux. Donc, qui tire le char de Dieu, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières, donc, dans les maisons de l'Éternel, seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées, des anges. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Il n'y aura plus de marchands. Si maintenant vous prenez Jean, l'évangile de Jean, vous allez voir que les marchands, ça pose un problème. Et c'est un problème continuel dans ce monde. Le marchandage, les affaires, l'économie. On vendrait n'importe quoi pour faire du commerce. C'est ce qui se passe. Évangile de Jean. Chapitre 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Donc, nous trouverons bien sûr d'autres textes dans Ésaïe qui vont dans le même sens et dans Jérémie. Donc, le marchand est quelqu'un qui met toujours en danger la vraie valeur des choses. Il achète au plus bas prix, et ils vont au plus haut prix. Et ça s'approprie la différence. Plus elle est grande, mieux c'est pour lui. Tous nos pays riches font ça. L'Europe fait ça avec l'Afrique. 285 milliards d'euros volés à l'Afrique de cette manière-là. Tout au bas prix est remis à profit au plus haut prix. Tout ce qui est fait comme vêtements à Hong Kong, au Bangladesh et tout ça, à bas prix. Les chaussures, etc., revendues à haut prix. Ce qui est sorti à 1 euro de l'usine ou à 50 cents est revendu à 30 euros. Évidemment, nos pays touchent une TVA et des primes d'importation là-dessus. Donc tout le monde, c'est du marchandage. Le marchandage et le commerce est toujours basé sur la spéculation, du moindre prix à la production et du plus haut prix à la vente. Et le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait, il l'a achetée. La perle de grand prix, c'est Christ. Et notre système économique, notre système de fausses valeurs devra s'incliner et baisser la tête et tomber et rechercher la vraie perle. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Je vous lis ce texte. Pourquoi? Parce qu'il y a une connotation extrêmement précise avec le livre de l'Apocalypse. « Apocalypse chapitre 18, verset 9. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle, donc la grande Babylone bien sûr, hein, la Babylone, repère de tout esprit impur, odieux, etc. Hein, et c'est au verset 3. Les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Hein, 18, verset 3, Apocalypse. Alors je vais plus loin, verset 9. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrassement. Vous avez vu Beyrouth, une grande ville de commerce. Faut pas grand-chose pour l'anéantir. Et toutes nos villes, New York, Londres, Paris. Faut pas grand-chose, vous savez. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venue ton jugement. » En une seule heure. C'est ce qu'il nous a annoncé. Une seule heure pour faire mettre une civilisation de marchandage basée sur le commerce à terre. Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, espèce de bois de senteur, espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cinnamone, aromates, parfums, myrrhe, encens, vin, huile, fine farine, blé, bœuf, brebis, chevaux, chars, corps et âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment, ils pleureront, ils seront dans le deuil. En une seule heure, au verset 19 aussi, tout est détruit. Il y a donc une annonce prophétique dans la parabole de Matthieu 13, versets 45 à 46. Le système dans lequel nous sommes, le système marchand, c'est-à-dire capitaliste, ou faussement communiste comme la Chine, hein, faussement communiste comme la Russie, etc., ce n'est que du capitalisme, à allure démocratique, mais tout à fait dictatorial, dans tous les cas, de toute façon, eh bien, ce système devra être mis à bas et devra chercher la perle de grand prix. Et cette perle de grand prix, tout ce qui est là, tout ce qui est là, tout ce qui est venu du ciel, vous le verrez dans l'Apocalypse, la perle de grand prix. Chaque porte de Jérusalem, chaque grande porte de Jérusalem est une perle énorme. Une perle énorme. Chaque porte de la ville est constituée par une perle. Il faut donc, pour rentrer dans Jérusalem céleste, passer par la perle. Mes amis, je pense que c'est dans le chapitre 21. Au chapitre 21 d'Apocalypse, verset 21, les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. L'or pur, c'est l'adoration de Dieu, bien sûr. La perle, c'est à l'entrée de la ville de Jérusalem céleste. La perle, la porte, c'est Christ. Donc, le système d'aujourd'hui s'écroulera. Et il faudra retrouver, s'incliner devant Christ. Nous allons encore dans Matthieu 13, verset 47, et nous allons terminer. C'est le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons toute espèce. Eh bien, nous allons l'aborder la fois prochaine, ce filet, qui est bien expliqué dans 5-6 passages de l'Évangile. Il faut le bien comprendre, parce que c'est la venue de Christ qui jette son filet sur les nations, sur nous tous, qui sépare certains poissons d'autres, etc. Et nous verrons que c'est le moment du jugement. Donc, nous sommes aujourd'hui vendredi. Je vous souhaite de bien méditer ce texte, de faire la relation avec les textes de l'Apocalypse, parce qu'il y a une grande relation Cette église représente toute la chrétienté à leur façon, telle que la chrétienté s'est développée depuis 21 siècles. Et toutes les paraboles de Matthieu 13 représentent le développement de la chrétienté depuis 21 siècles aussi. Pour aboutir à un jugement, évidemment. Alors, à lundi, où nous reprendrons dans Matthieu 13, verset 47. Que Dieu vous bénisse.